France Inter. L'heure philo.
Bienvenue dans l'heure philo. Lilian Alom à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Tila et Ravu à la console.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
C'est une des choses qui a structuré ma jeunesse. Les études, le syndicalisme, l'engagement politique, le cinéma, la lecture, la première approche des femmes, mais le sport, oui, constamment, avec ses exigences, ses règles collectives, sa technique qu'il fallait s'approprier. Peut-être que ça a joué un rôle aussi dans cette espèce de discipline physique qui m'a accompagné et qui a eu des conséquences positives au plan intellectuel. Ça a été effectivement la découverte du basket et j'ai fait du basket ensuite pendant 20 ans. Ça a été une grande passion puisque je jouais à la fois au lycée, puis en universitaire, quand j'étais à Sciences Po, mais aussi en civil parallèlement. Donc j'avais 2 matchs par semaine, parfois 1 ou 2 entraînements, et je jouais encore en vétéran à Sceaux à l'âge de 36 ans, et c'est une des choses qui a structuré ma jeunesse.
Alors vous aurez reconnu Lionel Jospin chanter les louanges du sport et plus particulièrement du basket, mais pas que, parce que Jospin était un sportif. La raison du sport, c'est le titre du livre d'un de nos deux invités, Jean-Luc Marion, philosophe, académicien et sportif. On peut en effet être à la fois professeur émérite à la Sorbonne et pratiquer la course à pied. Guillaume Martin Guyonnet, quant à lui, cycliste professionnel, meilleur grimpeur du... Alors je vais essayer de pas dire de bêtises. Meilleur grimpeur du Tour d'Espagne en 2020, 3e du Critérium du Dauphiné 2020, 8e au Tour de France en 2021. Et je ne parle pas de 2026, croisons les doigts. Guillaume Martin Guyonnet est aussi titulaire d'un master en philosophie. Alors même question à tous les deux. Avec, disons, ses exigences, sa discipline, ses règles collectives, est-ce qu'on peut dire que le sport, comme semblait le dire Lionel Jospin, ça vous structure un homme, Jean-Luc Marion ?
Bah écoutez, j'en avais parlé justement avec Lionel Jospin plusieurs fois.
Ah ben ça tombe bien.
Autant politiquement, je ne trouvais pas toujours ses décisions tout à fait excellentes, autant quand on parlait de sport, on avait exactement la même analyse et la même expérience. C'est-à-dire que le sport introduit un rapport à soi exceptionnel par rapport au rapport que l'on a à soi-même dans la vie courante. Non seulement parce que c'est beaucoup plus difficile de mentir, c'est plus difficile de se mentir, on n'est pas à distance de soi-même, et dans l'effort physique, on est immédiatement, si je puis dire, identifié à soi-même. Et donc, ça structure de fait non seulement le moment de l'effort, l'entraînement, mais la discipline, etc., vous fait accéder à un moi ou à un jeu plus réel que celui de la vie courante.
On
et
ça,
c'est
mentir.
Un gros avantage.
On ne peut pas se mentir quand on
pratique un sport. Si, on se ment, mais ça ne marche pas.
En tout cas, c'est une façon, c'est vous qui l'écrivez, une façon idéale de s'expérimenter soi-même.
Oui, de ne pas rester à distance de soi et se raconter des fadaises sur soi-même. On se ment beaucoup moins dans le sport. Et c'est pourquoi ça donne une force plus grande pour le reste des activités. Et de fait, je suppose qu'en politique, où il faut quand même avoir, disons, de la ténacité, il en est de même dans la vie intellectuelle. Quand vous faites un livre, quand vous travaillez au long cours sur une question, il faut que vous teniez à distance, il faut que ce soit solide, il ne faut pas que vous racontiez des histoires.
Alors, Guillaume Martin-Guyonnet, vous êtes vélosophe, c'est ça ? On peut vous appeler comme ça ?
Oui, je ne sais pas si j'ai la paternité du terme. Je l'ai employé dans mon premier livre, mais vous pouvez, ça contracte deux de mes grands centres d'intérêt.
Alors, est-ce que vous avez l'impression que le sport, vous êtes très jeune par rapport à Jean-Luc Marion et à moi-même, est-ce que ça vous structure ? Ça vous a structuré ?
Je trouve que ça peut... Enfin, en un sens assez évident, structuré, effectivement, parce que ça donne un cadre, et peut-être même plus on le fait de manière sérieuse et professionnelle, plus on a besoin de cette rigueur, aussi d'une équipe, en l'occurrence, dans le vélo, donc forcément d'un cadre. Mais au-delà de la structure, qui peut apparaître comme une cage, moi, je dirais plutôt que ça libère aussi. Et là, je rejoins du coup ce que vous disiez. Ça libère et ça vous rend effectivement plus proche de vous-même ou plus authentique. Moi, j'ai été, je reviens un petit peu sur mon parcours, j'étais plutôt un enfant timide qui avait un peu de mal à aller vers les autres ou à engager par exemple des conversations. Et je trouve, et je le suis toujours un petit peu, et je trouve que quand on roule ensemble à plusieurs... Finalement, la conversation est plus facile. Bah,
attendez,
et je suis plus facilement moi-même.
Ne me dites pas que la conversation a lieu pendant qu'on roule, si ?
Si, bien sûr. Bah, l'entraînement, quand on part rouler pendant 4, 5, 6 heures, ouais. Et même en course, en vérité, il y a, sur une course de 6 heures, tous les moments ne sont pas extrêmement intenses. Donc, on peut avoir des moments où on discute. Et je trouve que le sport, oui, libère, mais comme... l'alcool, en quelque sorte, aussi peut, on dit dans in vino veritas,
ouais.
Mais vaut mieux faire du sport, effectivement.
Il vaut mieux, oui, je crois.
Dans l'alcool, on ne ment pas. Bah, je pense que dans le sport aussi, on ne ment pas et on montre la vraie facette de soi-même. Je pense qu'il y a vraiment de ça, mais je crois que ça s'explique aussi de manière physiologique par la libération de... Enfin, il y a côté vraiment de désinhibiteur dans le sport.
Ouais. Jean-Luc Marion, évidemment, quand même, le but du sport aussi, ça peut être de gagner. On gagne sur soi, on gagne sur les autres, les deux.
C'est une des choses que j'ai découvertes très, très vite, c'est que le vrai moteur, c'est pas tellement de battre les concurrents dans une course. Il y en a toujours au moins potentiellement de plus forts. Donc on n'a jamais gagné une fois pour toutes. Donc en un sens, la victoire est toujours provisoire. Alors c'est une motivation quand c'est une grande compétition. Mais quand on est un sportif normal, on n'est pas dans les grandes compétitions. Donc il n'y a pas de titre fondamental à gagner. Mais ce qui est vraiment le motif, c'est de faire mieux que ce qu'on croyait possible. C'est découvrir que vous pouviez faire ce qui, à l'entraînement et au repos, vous semblait presque inatteignable. Pour moi, c'était l'ouverture d'un autre monde, tout simplement. Ça n'a été comparable après que dans des expériences existentielles fortes ou dans l'expérience intellectuelle, moment où vous savez que vous êtes vous savez faire la philosophie, que vous êtes un vrai prof, etc.
Et alors, bon. La plus grande joie, c'est de gagner une course ou c'est de.
Ah, c'est battre. C'est personnel.
Ou d'obtenir un diplôme. Qu'est-ce qui est le mieux des deux ?
Le diplôme en soi. C'est presque la routine, on est là pour passer des diplômes. Non, ce qui est important, c'est le moment où vous comprenez que vous savez faire ce que vous vouliez faire. Donc, les concours, les victoires, c'est pas décisif. Ce qui est décisif, c'est de penser qu'on y arriverait jamais et qu'on y arrive quand même.
Guillaume Martin-Guyonnet.
En tant que prof, en tout cas dans ma pratique du sport, pour moi, le record personnel n'est pas ce qui me motive fondamentalement. Ce qui me motive...
Oui,
c'est
il y a pas de record
gagner,
personnel.
C'est de
oui, mais
il n'y a pas
de record personnel en cyclisme sur route.
Là, on remonte à mon travail de mémoire. J'avais étudié un petit peu l'histoire du sport. Et je trouve que l'olympisme moderne, pour le coup, est fondé effectivement sur cette idée de record. Pas seulement personnel, mais pour le coup, record du monde. Enfin, on les signale toujours et ça a presque plus d'importance quand il y a un record du monde qui est battu que le simple fait de la victoire. Là où, si j'ai bien compris et bien lu mes différents livres d'études, en fait, dans l'olympisme antique, cette idée de record était complètement absente et il s'agissait simplement de battre le second et le troisième.
Oui, oui.
Et d'ailleurs, le deuxième et le troisième n'étaient pas récompensé dans les jeux antiques et il n'y avait que le premier qui était honoré.
Non, mais vous avez entièrement raison, mais il faut faire plusieurs distinctions. D'abord, vous êtes professionnel. Donc, il vous faut des points UCI, si je puis dire. Hein. Tandis que la plupart du temps, les gens ne sont pas. Ce qu'ils ont à battre, c'est leur record personnel. Deuxièmement, le vélo est un sport non mesurable. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est le nombre de courses que vous avez gagnées, si vous avez gagné une grande classique ou pas, etc. etc. Donc, là, il n'y a pas de. Le record de la montée du Ventoux. N'est dans la tête de personne, on ne sait même pas qui l'a, sans doute Pogacar, j'en sais rien, mais on veut dire, c'est pas ça qui est décisif. Le Ventoux, c'est quand est-ce que Bobet a lâché Gaulle en 55, je crois. Bon, ça c'est rare, on s'en souvient, ou l'inverse, mais c'est pas le temps qui est décisif. Donc là, ça dépend des sports. Donc alors. Troisième remarque, vous avez entièrement raison, l'olympisme moderne a été mathématisé, ce qui n'était pas le cas des Jeux olympiques anciens. Ça, c'est les Anglais. Donc, et c'est ce qui fait d'ailleurs le prestige sûrement des sports élémentaires comme primaires, si je puis dire, comme l'athlétisme et la natation, où là, il y a une mesure exacte qui fait que la notion de record a un sens. Mais il y a des tas de sports où il n'y a pas de notion de record. C'est le titre qui importe.
Oui, justement, c'est ça que je trouve le plus beau. Et je trouve qu'en fait, dans l'idée de record, il y a quelque chose d'assez effrayant parce que c'est infini. Oui. C'est-à-dire qu'on peut toujours battre le record. Donc la quête est jamais achevée. Oui. Alors c'est beau aussi, oui. C'est très beau.
Et d'un point de vue philosophique, c'est lourd de conséquences, ça, non ? Le fait de n'avoir jamais atteint son but, finalement.
Oui, mais du coup, je trouve que c'est presque angoissant. Là où, finalement, la performance où tel grand champion a battu tel autre champion, vous parlez dans votre livre des exploits de Jazzy, par exemple, voilà, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'histoire de
comme,
toute éternité.
Comme disait récemment Gressier, quand il était champion du monde du 10 000, je ne suis peut-être pas le meilleur coureur sur 10 000 au monde, mais ce titre, je l'ai pour toujours.
Jazzy, vous avez bien fait de le souligner parce que vous en êtes amoureux. On va en parler tout à l'heure. Jazzy, sa foulée, sa façon dont il flottait dans l'air, il était beau, une élégance qui, comme chez Bobet, tenait de la morale. Jean-Luc Marion et Guillaume Martin-Guyonnet sont aujourd'hui les invités de leur philo et nous parlons du sport, de leur passion.
Baby, you look blue.
Yaya Bay Blue. Alors, nous allons écouter une archive. C'est Raymond Marcillac au sujet de Michel Jazzy.
Jazzy, est-ce que vous croyez qu'il peut battre le record du monde du 1500 mètres?
Oui, mais entraîné par qui? Qui faut-il devant lui?
Parce que c'est la grosse question.
Mais
ça,
absolument. En athlétisme, il s'agit, comme en cyclisme, dans le record de l'heure ou d'autres, il s'agit de trouver les circonstances favorables.
Ça, oui,
actuellement, à l'heure actuelle, tel qu'il est, dans la forme qu'il est, Jazzy peut battre le record du monde d'Eliot sur 1500 mètres.
Et d'après vous, qu'est-ce qu'il faut pour l'entraîner au départ?
Il faut une course avec les meilleurs coureurs,
oui,
il faut un temps de passage idéal au kilomètre,
oui, bien sûr.
Il faut etc. etc.
Et la télévision.
C'est très difficile. Et la télévision.
Et je crois que ça y fait.
Vous
ça,
avez raison, Roger.
La télévision
Couvert, car lorsque les gens savent qu'ils sont télévisés, ils savent qu'ils sont vus par des millions et des millions de téléspectateurs. C'est donc grâce à vous, téléspectateurs, si beaucoup d'athlètes battent des records du monde, ils le savent et ils se surpassent souvent à cause de ça.
Alors, puisqu'à Tokyo on aura la télévision en direct pour Paris,
c'est pas sûr,
croyez-vous que Michel Jazzy pourra être champion olympique? Parce que c'est aussi la question que l'on se pose. Est-ce qu'il va tenir jusqu'à?
Qu'est-ce qui peut se passer?
Le climat est différent quand même.
C'est pas tellement ça, mais est-ce qu'il va conserver sa santé? C'est une question de santé, vous le savez bien, puisque dans le Tour de France, les hommes qui étaient en bonne santé étaient les hommes qui gagnaient les étapes et qui s'est distingué. Est-ce qu'il réussira à conserver cette santé magnifique qu'il a en ce moment?
Tranquillité d'esprit,
il est bien entouré.
Enfin, pour l'instant, oui. Si tout se passe comme prévu, Jazzy peut être champion olympique à Tokyo.
Ce serait extraordinaire.
Jean-Luc Marion, Jazzy, c'est quoi? C'est une admiration? Il y a de votre part une certaine dévotion? Qu'est-ce qui vous plaît tant en lui?
D'abord, Jazzy a été l'une des figures de la résurrection de l'athlétisme français à la fin des années 50 et dans les années 60. Mmh. Donc, cette capacité à progresser régulièrement et puis à échouer au moment crucial et à rebondir encore plus haut, c'était admirable.
Alors, d'abord, peut-être vous avez une réaction, Guillaume Martin-Guyennet, à ce que vient de dire Jean-Luc Marion, mais est-ce que vous avez comme ça, vous, des phares, des gens qui illuminent votre vie de sportif?
Moi, je ne sais pas si j'ai grandi avec des figures mythiques comme ça. Par contre, j'ai grandi avec le sport de manière générale et j'avais vraiment une passion. Enfin, je ne regardais pas les dessins animés, je regardais les chaînes de sport et je regardais tous les sports. Je ressens votre passion et j'ai éprouvé la même parce que je sais que le sport peut procurer ces émotions-là. À la fois, vous vivez par procuration les exploits de ces champions, vous vous imaginez un peu à leur place. Oui, je pense que les figures aussi qui fascinent le plus, c'est pas celle qui archidomine tout le temps. Vous avez parlé des hauts et des bas de la carrière de Michel Jazzy. Dans le vélo, il y a, je pense, le cycliste le plus populaire en France de ces dernières années, Thibaut Pinot. Pourquoi il est si populaire? C'est parce qu'il a eu des périodes où il était à son zénith, et puis des périodes de blessures, des périodes plus compliquées. Il revenait tout le temps. Et c'est ça, c'est cette idée de résurrection qui fascine et qui crée de l'émotion. Une de mes dernières émotions sportives, c'était le dernier match du tournoi Destination en rugby, quand la France a battu l'Angleterre, pour ainsi dire, à la dernière seconde. Enfin, ça, c'est vraiment du spectacle vivant et d'improvisation aussi, puisqu'on ne sait pas vraiment, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, et ça vous transporte dans des états assez incroyables.
Mais est-ce qu'à ce moment-là, vous avez l'impression que vous êtes vous-même, si vous gagnez une sorte de dieu, ou de voir des dieux pas loin de vous?
Oui, oui, il y a quelque chose de vraiment, on voit des dieux, et ce qui est assez paradoxal, c'est que moi, donc actuellement, je suis encore en activité cycliste professionnel. Je vais, si tout se passe bien, participer à mon 10e Tour de France cette année.
Tour de France, là, oui, bientôt.
Et depuis que je suis à la place de ceux que je regardais à la télé, dans l'archive, c'était assez amusant de dire que la télé avait son importance dans le record. Mais depuis que finalement je participe au Tour de France, j'ai comme un manque en juillet, c'est de ne pas regarder le Tour de France. Et de ne... Parce qu'en fait, évidemment, on rêve de ce qu'on n'a pas. Et quand on y est, Bah, c'est la réalité, c'est plus le domaine des dieux, c'est mon quotidien, et finalement c'est une forme de normalité, et même quand je fais des exploits, finalement j'ai presque pas les mêmes émotions que quand je regarde les exploits d'un autre, et pas la même pression.
C'est ce que je dis, le paradoxe du Tour de France, c'est que, moi je suis pas dans le peloton, mais quand j'étais dans la voiture du directeur, personne ne voit le Tour de France. Quand on est dans le Tour de France. Pour revenir à cette exaltation du moment crucial d'une épreuve sportive, la dernière transformation de Ramos, enfin bon, c'est que le sport c'est un spectacle, si on veut, mais c'est l'histoire d'un événement, c'est-à-dire que personne ne sait comment ça va se terminer. La plupart des spectacles que nous voyons sont des spectacles dont nous savons l'issue. Ce sont des objets que nous pouvons interpréter, dominer, etc. Dans le cas du sport en direct, c'est l'événement qui n'est pas encore décidé qui s'impose, et donc vous êtes dominé par l'événement. Vous êtes dominé par ce que vous voyez. La plupart du temps, quand vous allez à l'opéra, au cinéma, c'est vous qui avez un avis, vous jugez, etc. Vous êtes dominant. Tandis que là, dans le sport, vous êtes dominé. Et le participant actif est lui aussi dominé par la chose. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une course, vous ne savez pas comment ça va se terminer.
Oui, mais quand il y a un peloton, précisément, vous dites que peloton et société, d'ailleurs, font miroir, c'est ce que vous écrivez. Mais est-ce qu'on a l'impression d'être le chef d'un groupe? Parce que là, il y a quand même toute une collectivité, un collectif autour de vous.
Oui, il y a le principe de la société du peloton, c'est que justement, il n'y a pas de chef. C'est une forme je la décris comme une forme de société anarchiste et qui fonctionne à peu près quand même, malgré tout. C'est un miracle permanent.
Il n'y a jamais de chef.
Mais il y a des...
De meneurs, je ne sais pas comment il faut appeler ça.
Oui, il peut y avoir des rapports de domination, des équipes qui veulent s'imposer aux autres.
Ça peut
dans
être
les équipes,
Lino, Merckx,
un leader, etc.
Ou Armstrong, mais c'est pas requis.
Ça s'impose comme ça, mais c'est toujours un peu mouvant. Pour rebondir à ce qui vient d'être dit juste précédemment, oui, l'exaltation, elle vient de ce qu'on ne maîtrise pas. Mmh. Et finalement, le sportif, quand même, malgré tout, quand il est en action, il maîtrise. Je ne pense pas que Thomas Ramos, quand il était au moment de taper cette dernière transformation, il avait une pression folle. La pression, on l'avait tous, nous, qui regardions la télévision.
Mmh. Et mais lui, non.
Moi, et lui, non. Moi, mon petit frère a fait du rugby par le passé, et quand j'étais dans les gradins à le regarder tenter une transformation, j'avais beaucoup plus de pression que quand moi-même j'étais au départ du Tour de France. Mmh. C'est assez...
Le cœur bat plus vite quand on est spectateur.
Quand on ne maîtrise pas, une situation de déport, oui.
Alors, un moment historique qu'on va écouter ensemble, c'était en 1989, l'arrivée du Tour de France, commentée par Robert Chapat.
5, 4, 3, 2, 1, stop. Extraordinaire, inouï, Greg LeMond reprendrait le maillot jaune dans ce final des Champs-Élysées.
Greg LeMond qui n'a jamais perdu contre la montre face à la Raffinion, attention.
Moment historique de ce Tour de France, moment historique du Tour de France.
Top
26 et 57.
Voilà la Raffinion qui passe.
Attention, voilà 10 secondes, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Greg LeMond l'emporte. C'est fini. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Moment intense, moment d'émotion.
Attention, top, 2,58 pour 8 secondes. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Dans la dernière étape, jamais de ma vie je n'oublierai ce moment. Une véritable folie.
Moment terrible pour Laurent Fignon.
C'est terrible, il a gagné le Tour de France. On en est à la joie de Greg. Alors que Laurent, lui, est allé pleurer dans son coin. Laurent, effondré là-bas, couché sur les Champs-Élysées.
Une folie, une folie, une folie.
Un commentaire du commentaire Jean-Luc Marion, une folie. Est-ce que on peut dire à ce moment-là que Fignon perd tout et que Greg LeMond gagne tout?
Eh bien, justement pas. D'abord parce que tout le monde se souvient de Fignon, qui était un personnage romantique et tout à fait particulier, alors que la personnalité de LeMond n'a jamais été extraordinaire. Deuxièmement, parce que c'est Fignon qui a gagné ce Tour de France-là. Il faut le dire, puisque LeMond avait utilisé un guidon qui était à l'époque interdit, qui était le guidon de triathlète, où les bras sont allongés, ce qui est meilleur pour l'aérodynamisme, et on peut tirer dessus. Et donc, en un sens, il a triché, il aurait dû être disqualifié. Mais en fait, les 8 secondes là, il les a perdues comme ça. Bon, la deuxième chose, c'est qu'il était, je crois, il avait un claquage à la cuisse qui datait récemment. Et puis, troisièmement, je peux le dire maintenant, je suis désolé si je vois un jour Lemon d'avoir dit ça, mais c'est la vérité, Lemon a toujours ratonné. C'était comme Stan Hooker, c'était un gars qui restait dans les roues, il a toujours gagné en restant dans les roues.
Alors, explication de texte, ça veut dire rester dans les roues.
Ratonner. C'est l'expression vraiment.
Bah oui, mais alors moi je ne sais pas ce que c'est.
Monsieur Marion, et c'est là qu'on voit qu'il est spécialiste. Très spécialiste, parce que on a tout un. Comme dans tous les milieux, les corporations, il y a un petit.
Vocabulaire très spécial.
Vocabulaire
ça veut dire
spécifique.
Le gars qui reste dans la roue de celui qui le précède.
D'accord.
C'est-à-dire.
Sans passer de relais.
Il ne prend pas de relais. C'est celui qui est devant qui prend le vent. C'est donc celui qui est derrière est aspiré, c'est pas lui qui fixe le tempo, et donc il dépense moins d'énergie, etc. Alors il y a des coureurs qui ratonnent et qui ont un beau palmarès, il y avait Stan Hooker qui était un grand ratonneur, il y avait Nancini qui était un grand ratonneur, et Lemon a toujours été un grand ratonneur.
Une sorte de profiteur du travail des autres.
Autres,
mais
oui.
Ça fait partie aussi, pour le coup, il n'y a rien d'interdit.
Ça dit le style du gars, et on n'a jamais vu Lemon faire une échappée de 50 km et partir tout seul.
Il a toujours vous voulez dire que le vainqueur moral était Fignon et le vainqueur du palmarès
oui,
était...
Oui, et puis je veux dire, dans la mémoire, ce qui reste, c'est les 2,5 tours, si je puis dire, qu'a gagné Fignon. Personne n'oubliera ça, de la même manière qu'on n'oubliera pas la défaite de Jazzy à Tokyo, précisément parce que ça a été surmonté. Et le palmarès de Fignon, il n'a pas été champion du monde, c'est vrai, mais il a gagné difficilement d'ailleurs le Giro, il a gagné même 2 fois, je crois. Fignon reste une plus grande figure, me semble-t-il, dans l'histoire du cyclisme, que Lemon. La dramaturgie, en quelque manière, a décidé de son vainqueur.
Alors, messieurs, vous me permettrez d'être têtu, mais je voudrais revenir quand même à le sens du collectif et l'individualisme, l'individualité. Guillaume Martin-Guyonnet, vous écrivez « Mon individualité résistait au sens du collectif ». Qu'est-ce que ça signifie ?
Je trouve que dans le sport moderne, dans l'olympisme moderne, justement, il y a une injonction en quelque sorte au collectif qui me semble aller en contradiction avec la motivation profonde du sportif, ce que je ressens au fond de moi, qui est de une certaine forme d'égoïsme, je dois bien l'avouer.
Ça veut dire qu'on ne peut jamais triompher seul ?
Ça, c'est vrai, on ne peut jamais triompher seul. Donc on a besoin du collectif, encore plus dans le vélo, on dit que c'est un sport individuel pratiqué en équipe, et de fait avec tous les phénomènes d'aspiration qui ont été expliqués, un coureur, même s'il est beaucoup plus fort que les autres, arrivera jamais à résister tout seul face au vent, face à un peloton qui s'organise, donc on peut pas gagner sans ses coéquipiers. Pour autant, on entend souvent dans le sport ce discours que voilà, d'un joueur de rugby, je reviens au rugby, qui après le match, on lui donne le trophée d'homme du match, il dit non, c'est rien, l'important c'est d'avoir gagné, c'est le collectif qui a gagné.
L'important c'est de participer, c'est ça, c'est ce que disait Coubertin.
Voilà, moi je suis très gêné par rapport à tous ces discours-là, parce qu'il me semble qu'ils vont à l'encontre, oui, de ce qui motive vraiment un sportif, à savoir cette volonté de gagner, qui n'est pas problématique, puisqu'on est dans un cadre institutionnalisé. On est dans, c'est pas la vraie vie, le sport, c'est un terrain de jeu, et donc dans ce terrain de jeu complètement arbitraire, on peut tout à fait laisser aller ses penchants animaux en quelque sorte de vouloir gagner, vouloir triompher, et ses penchants égoïstes. Je trouve pas ça gênant.
C'est intéressant ce que vous dites, c'est pas la vraie vie le sport. Qu'en pense le philosophe, parce que vous êtes philosophe tous les deux, mais sur cette bataille insensée qu'on mène sur les autres, sur soi-même, etc. C'est quand même aussi la vie, non ?
Oui, mais il faut distinguer deux choses. On peut pas faire du sport tout seul. Il faut qu'il y en ait d'autres. Alors, ces autres sont évidemment des adversaires dans une division agonistique du sport. Il y a un seul vainqueur, donc les autres sont des adversaires qu'il faut dominer. Mais en même temps, s'il n'y avait pas les autres, on ne ferait pas la moitié des efforts que l'on fait. Même si ce sont des autres simplement potentiels, parce qu'on s'entraîne seul, mais c'est pour une compétition à venir avec des autres réels. Donc, il y a cette curieuse expérience, c'est qu'on est en compétition contre les autres, mais avec les autres. Et la preuve...
C'est une forme de dialectique.
Oui.
L'autre est la une preuve, sorte d'aiguillon la, pour oui,
la
avancer.
Preuve, la preuve, c'est que les autres peuvent vous rendre plus fort que vous n'étiez. Ça, c'était quand on est une course, une étape contre la montre par équipe, chez vous, ou une demi-douzaine de types en grand train, en demi-fond, ils se tirent les uns les autres. Et ils sont quand vous êtes dans le dernier tour, tout le monde est à fond, tout le monde entraîne tout le monde, et tout le monde veut la peau de tout le monde. Mais les deux vont ensemble. C'est-à-dire on fait du sport avec son adversaire. Contre son adversaire, mais il faut qu'il soit là. Et donc, c'est pourquoi je pense que... Il y a deux devises olympiques qui sont toutes les deux qui sont contradictoires. C'est plus fort, plus haut, plus vite. Donc ça, là, c'est il y en a qu'un seul qui gagne. Et l'autre, c'est le plus important, c'est de participer. D'ailleurs, ce sont deux.
Ça, c'est Coubertin, non ?
Non, ce sont deux religieux qui ont donné chacun une devise à Coubertin.
D'accord.
La plus fort, plus haut, c'est le père Didon, un dominicain, et l'autre, c'est l'archevêque épiscopalien de Philadelphie. Bon, alors ces deux devises sont contradictoires. Dans un cas, victoire d'un seul, dans l'autre, effort collectif. Et je pense que l'intérêt du sport, réglé, réglementé, c'est justement la conjonction, qui se fait de façon différente selon les sports, la conjonction de ces deux expériences, que moi, je n'arrive pas à séparer. J'ai le souvenir de m'être tiré la bourre, si je puis m'exprimer ainsi, terriblement avec un type dans un cross. On court, le cross c'est long, c'est dans la boue, c'est affreux. Et donc, pendant 2-3 kilomètres, vous passez votre temps à rattraper un gars, à l'essayer de lâcher, puis il vous rattrape, puis il essaie de vous lâcher, etc., etc. Vous le connaissez pas, vous le haïssez pas, mais vous voulez sa peau. Et vous voulez absolument... Et à l'arrivée, vous arrivez sans doute ensemble, complètement cuit, et vous tombez dans les bras l'un de l'autre, alors que vous connaissez pas. C'est une manière de dire, à ce moment-là, nous étions ensemble. Ça ne veut pas dire que nous étions pas en compétition, mais nous étions ensemble. Et ça, c'est une chose... alors, c'est ce qui fait l'intérêt du livre, l'un des intérêts du livre de Guillaume Martin sur le peloton.
C'est-à-dire, la société du peloton.
La société du peloton, vous montrez comment il y a une organisation du peloton sans contrat social. C'est pourquoi ce livre est le contrat social de Rousseau en beaucoup mieux. Parce que le contrat social de Rousseau...
Je rougis, là, pour le coup.
Non, mais parce que c'est cette idée qu'il y a une régulation de la pulsion individuelle, que vous indiquiez très bien, et de l'organisation communautaire, si je puis dire, spontanée du peloton. Et c'est un modèle politique. C'est-à-dire, sans l'illusion d'un contrat que nous aurions tous signé entre citoyens pour se déléguer le droit à la violence à l'État, etc., etc. Personne n'a jamais signé un tel contrat. Mais dans le peloton, il y a un contrat qui est signé implicitement, et c'est votre trait de génie d'avoir montré comment cette logique se mettait en place sans que personne ne l'ait théorisé.
Trait de génie, je ne sais pas si on va pouvoir encore vous parler, Guillaume Martin Guyonnet. Vous voulez bien, vous acceptez de répondre?
Je suis très, très gêné, je suis rien à côté de M. Marion et encore moins peut-être à côté de Rousseau. En tout cas, ce que vous avez
sérieux,
dit...
Hein, je suis sérieux, c'est un très bon livre.
Ce paradoxe inhérent au sport entre à la fois, on va dire, volonté de faire ensemble et puis volonté de se dissocier, puisque c'est ça la volonté de gagner, je pense qu'il est assez aussi à l'image, justement, de la société, de la vie elle-même, de ce que nous vivons tous, parce qu'on est tous, en fait, tiraillés, en quelque sorte, par cette double aspiration à aller vers les autres et à s'en éloigner. On a tous des moments de nos vies où on a la tentation de l'île déserte et d'autres où on a envie de partager. C'est ça qui fait la vie humaine. Et je trouve que c'est en cela que le peloton cycliste et le sport de manière générale est à l'image de la vie, mais peut-être la vie en mieux, parce que défaite de les contraintes logistiques et où on peut se laisser aller sans conséquence à avoir des relations de attraction-répulsion avec, avec les autres.
Mais oui, hein, la comparaison avec la politique est intéressante, parce que une fois que la course est terminée, les gens qui sont second, troisième, quatrième vont pas se mettre à contester que le vainqueur a gagné. Ils disent bien, il était plus fort, c'est déjà très bien d'avoir terminé dans une bonne place, j'ai fait tout ce que j'ai pu, Pogacar ou Van der Poel était, c'est aussi plus fort. Donc là, il y a, en quelque manière, une unanimité objective qui se met en place. Ce qui n'est pas le cas en politique. Après les élections, les fractures peuvent être encore aussi grandes, voire plus grandes. Et c'est là que le sport a un côté, améliore les rapports humains. C'est très rare qu'on conteste un résultat sportif.
Parce que la domination aussi dans le sport, elle est que il y a une justice et provisoire. On peut accuser le sport d'être la forme la plus avancée du capitalisme où il s'agit d'écraser l'autre, de se montrer plus fort. Enfin, c'est la loi du plus fort. Non, c'est pas du tout la loi du plus fort. Parce que, en fait, c'est contraint à ce cadre artificiel qui, justement, est artificiel. Donc, fait que résultat final est déclaré, quand le coup de sifflet final est sifflé, on est tous égaux.
Et puis, on va recommencer l'année prochaine.
Vous êtes bien sur France Inter. C'est l'heure philo que vous écoutez.
Cantona, il est un ange, il est un mélange insolitaire. Il a la tendresse de Mireille Mathieu. Il est un peu comme Giresse, il a la poitrine de Gérard Depardieu. J'ai des oulalalalalalala. Merci France pour Eric Cantona. Il a la gravité de Monsieur Mitterrand. Il a la sûreté et grandeur du Mont Blanc. Il a la charme de Maurice Chevalier, la poésie du Baudelaire. Il est un vrai français, mais il joue en Angleterre. J'ai dit oulalalalalalala. Merci France pour Eric Cantona. Schmeichel, Kanchelskis, Hughes, out to Gibbs, back to Hughes, to Cantona, the Frenchman's away. Goes past one man, past two, delightful little flick. Takes it on the outside of his boot. Oh, I say it's a goal! J'ai dit oula la 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 la. Merci France pour Eric Cantona. Oui, c'est vrai, pour un temps, Monaco, ils avaient Glenn Hoddle. Ouais, je sais, pour quelques saisons, Marseille, ils avaient Chris Waddle. Mais en Angleterre, on n'a qu'un Français. Mais c'est lui-là, ouais, c'est un vrai. J'ai dit oula la 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 la. Quel sacré gars. Cantona, Cantona, dans son équipe, tous les Anglais, il dit oula, c'est la bonne trip. Eric Cantona, il est toujours à son poste. Quand il est sur le terrain, il va plus vite qu'à Alain Prost. J'ai dit oula la 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 la. Merci France pour Eric Cantona.
Qui mettent pour le moment toujours 1-0. Ce but de Lampard qui a marqué après 38 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Et en tous les cas, on s'aperçoit que les Anglais dominent très largement les Français, et des Français qui ont vraiment d'énormes difficultés à s'imposer. En tous les cas, actuellement, cette équipe anglaise qui mène toujours 1-0.
C'était une chanson de Raymond Bizarre sur Eric Cantona. Eric Cantona, ça vous apporte une idée, ça vous suggère un commentaire, Jean-Luc Marion ?
Oui, c'était Rému et Ginola ensemble, un peu. C'est toujours une tête de l'art de génie qui aurait pu être un génie tout court. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi il n'a pas été le leader absolu de l'équipe de France. Il en avait toutes les qualités. Il a simplement été Eric Cantona, qui est en soi une légende, mais qui n'est pas le plus grand footballeur français.
Alors, on a beaucoup parlé de course à pied, de vélo. On peut aussi parler de tas d'autres sports, là, de football, de rugby. Est-ce qu'il y a d'abord une ressemblance entre vélo et rugby ? Peut y avoir des ressemblances, Guillaume Martin-Guyonnet ?
Ce sont deux sports durs, déjà, pour différentes raisons. J'ai l'impression qu'on ne peut pas devenir prétentieux, vraiment, quand on fait du rugby ou quand on fait du vélo, parce que la réalité du terrain ou de la route vous ramène assez vite à ce que vous êtes, c'est-à-dire pas grand-chose. Mmh. Quand on monte un col, on a toujours des moments de moins bien, et on a beau être un grand champion reconnu, on passe par ces moments de moins bien, ou alors il y a des moments où on doit aller s'entraîner dans l'hiver, sous la pluie, où on finit grelottant. Voilà, ça évite un peu le processus de starification qu'on peut avoir dans d'autres sports. Et je pense que dans le rugby aussi, il y a ça, c'est une école aussi de l'humilité, parce qu'on a le nez dans le gazon, clairement.
Mais, alors, Jean-Luc Marion, en tant que spectateur, vous dites qu'assister à un véritable match de rugby reste un miracle.
Oui, pour la comparaison, vous savez, il y a des vins qui ne sont pas extraordinaires et qui sont toujours égaux à eux-mêmes. Mais il y a des grands vins qui peuvent être des grandes déceptions, comme le Bourgogne. Un Bourgogne, tant que vous ne l'avez pas ouvert, la bouteille, tant que vous ne l'avez pas bu, vous ne savez pas si ça va être sublime ou si ça va être raté. Eh bien, le rugby, tous les matchs de rugby ne sont pas du rugby. Il y en a qui sont du rentre-dedans, des passes ratées, des essais casquettes ou des bagarres de saloon. Pour que le rugby devienne vraiment du rugby, il faut une espèce de miracle. C'est-à-dire que tous les joueurs touchent le ballon, toute l'équipe, ou presque, touche le ballon. Alors il faut à ce moment-là que tous les joueurs se trouvent au bon moment, se trouvent au bon endroit et se trouvent eux-mêmes l'un l'autre au bon moment. Donc il faut qu'ils soient dans une parfaite harmonie, laquelle ne peut pas être prévue. Elle est fondée sur le fait qu'ils ont répété beaucoup.
Elle est miraculeuse.
En un sens, elle est miraculeuse. Elle n'est pas prévisible. Ce qui fait la spécificité du CAS de France, c'est qu'il est capable de faire ça plus souvent que les autres équipes. À ce moment-là, tout le monde est en extase, et on a raison, c'est un côté miraculeux, parce que ça n'est pas prévisible, ça n'est pas calculable. Et ça se voit surtout, à mon avis, au rugby. Plus qu'au football.
Mmh. Vous avez aussi cet avis-là, Guillaume Martin-Guyonnet ?
Oui, je suis assez d'accord. Et c'est peut-être aussi un point de commun avec le cyclisme, parce que ce genre de miracle peut exister. Oui. C'est-à-dire que si on pense aux échappées sur des étapes plates, on sait que dans 90% des cas, voire plus, elle va justement se faire rattraper par le peloton pour les explications d'aspiration qui ont été dites précédemment. La force du nombre du peloton fera que l'échappée n'ira pas au bout. Et puis, il y aura aussi parfois des dissensions au sein de cette échappée. Mettons qu'il y ait quatre coureurs qui doivent donc unir leurs forces, passer des relais. Il faut que ce soit optimal pour qu'ils aillent au bout. Sauf qu'à un moment donné, effectivement, chacun des quatre pense au fait que l'objectif, c'est quand même de gagner. Il n'y en a qu'un seul qui lève les bras. Donc, l'un des quatre va se dire « Ah, peut-être que je vais faire un peu moins d'efforts. » Et du coup, les trois autres vont dire « Ah non, lui, il fait un peu moins d'efforts. Moi aussi. » Et donc, dans ce cas-là, tous font un peu moins qu'ils devraient.
Et ils sont avalés par le peloton.
Mais parfois, il y a un miracle. Parfois, les quatre sont dans une forme d'osmose. Il n'y a pas d'arrière-pensée, ils ne calculent pas. Ils se la jouent finalement à la régulière. L'échappée va au bout, résiste au peloton, c'est la petite souris qui résiste au chat. Et c'est ça qui crée évidemment des moments imprévisibles et des moments d'exception dans le sport.
Alors je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui sont en train de se dire « Bon, ça fait un moment qu'on parle du sport, qu'on vante les mérites du sport, et c'est tout à fait normal et très loyal. » Il y a quand même deux aspects qu'on n'a pas vraiment évoqués jusqu'à présent, c'est le rôle de l'argent et le dopage. Là, c'est quoi ? C'est la face noire du sport, mais qui ne peut pas être ignoré.
Bien sûr. D'abord, l'argent, il y a toujours de l'argent dans le sport, mais le sport n'est pas fondé sur l'argent. Il est fondé sur le fait que ça peut devenir un spectacle qui attire des spectateurs. Mmh. Et c'est le fait qu'il y ait des spectateurs qui va attirer l'argent. Puisque des spectateurs, c'est des gens qui vont payer pour voir, et puis aussi des consommateurs potentiels. Donc, l'argent vient là où il y a un marché. Donc, le marché des spectateurs attire l'argent. Puis après, tout un système se met en place. Donc, il ne faut, pas dire que c'est une chose normale et assez banale. De la même manière, le théâtre, l'opéra avaient attiré l'argent parce qu'il y avait des spectateurs. Et puis, alors, deuxièmement, le dopage, il faut comprendre que le dopage a toujours été pratiqué à différentes manières. C'est-à-dire, on veut toujours améliorer la machine qui produit les performances.
Oui, mais enfin, c'est quand même une tricherie.
Non, je dis que s'imaginer que le sport puisse ne pas être soumis à cette tentation est illusoire. Dans l'Antiquité, les gars se dopaient aussi. Alors, ils se dopaient à la papa. Donc, la question est de savoir si le sportif, et ça, c'est quand même le sportif, et Guillaume pourra le dire lui-même, si le sportif se considère ou se laisse interpréter comme une machine, ou plutôt comme le moteur d'une machine, à qui on peut faire subir toutes les améliorations possibles, enfin que la technique rend possible, ou si il est lui-même. Et c'est là que la distinction entre la chair et le corps intervient.
Mon corps atteint le statut de chair, Guillaume Martin Guillonnet.
Enfin, sur ces deux questions qui ne sont pas forcément liées déjà, je pense que la question de l'argent, l'argent n'est pas la motivation première, loin de là, du champion. Le sportif qui est vraiment amoureux de son sport, ce qui le motive au quotidien à aller s'entraîner,
c'est tout ce qu'on a dit précédemment.
Ouais. C'est la volonté de gagner, ouais. c'est cette rage intérieure, en quelque sorte, de vaincre. Parce que sinon, au bout de quelques années, y a plein de sportifs qui, après avoir accumulé assez d'argent, arrêteraient. Donc je ne pense pas que la motivation première des plus grands sportifs soit l'argent. Et sur la question du dopage, je pense que là aussi, c'est ce qui distingue les vrais champions. C'est ceux qui ont assez d'estime pour eux-mêmes pour se dire qu'est-ce que vaudrait la victoire s'il y a triche. Donc c'est une forme là, on rejoue à des questions d'éthique. Alors après, c'est sûr que là aussi, le sport est à l'image de la société. Donc il y a des gens qui trichent dans le sport. C'est pas la majorité déjà, c'est pas le généralisé, ça l'est plus en tout cas dans le vélo, ça l'est peut-être été à une époque, mais ça l'est plus du tout aujourd'hui. Oui, je trouve que ce qui distingue les grands champions, c'est vraiment une forme d'éthique interne
oui,
qui les
parce
habite.
Que je pense qu'on peut le dire d'autant plus quand on est un observateur et pas un pratiquant, c'est que celui qui triche, qui se fait rattraper, tout est perdu. Sauf peut-être l'argent qu'il garde, mais il n'a plus de nom dans le palmarès. Plus personne ne peut le reconnaître et il n'est plus reconnaissable. Armstrong est quelqu'un qui n'existe plus. Et personne ne voudrait être dans l'âme d'Armstrong, parce que malheureusement pour lui, il en a une, et ça doit être très pénible.
Mais moi, je pense même que le dopé, avant même d'être démasqué, est déjà perdu.
Oui, bien sûr, il est
déjà perdu aux yeux de lui-même.
Alors, pour ne pas finir sur cette note, justement, du dopage, est-ce qu'on peut dire que dans le sport, quand on le pratique à ce niveau-là, est-ce qu'il y a une espèce de fusion du physique et du mental ?
Moi, je le pense. Je pense que c'est un cas qui illustre parfaitement une distinction que les philosophes contemporains ont faite entre le corps, au sens du corps matériel, du corps qu'on peut interpréter comme une machine, l'homme-machine, et le corps du dualisme, et puis le moment où le corps devient, si je puis dire, une partie de l'âme. Un moment dans le corps, je ne ressens pas seulement le monde extérieur, je me ressens moi-même. Et donc je fais une expérience de moi-même qui est plus intense que si j'étais simplement à distance de mon corps, comme dans la bonne santé, dans la vie normale, où mon corps ne m'ennuie pas, m'obéit, mais il est, pour ainsi dire, différent de moi-même. Quand j'entre dans la posture de l'effort, le corps devient ce par quoi je me ressens moi-même. Il faut bien comprendre que, par la simple pensée, je ne me ressens pas moi-même. Je me représente moi-même, mais je ne m'éprouve pas moi-même. Et donc, pour m'éprouver moi-même, il faut que j'ai cette passivité interne qui est ce qu'on appelle la chair.
Jean-Luc Marion, merci. Jean-Luc Marion de l'Académie française. Je lis ce sur la couverture du livre. La raison du sport, c'est chez Grasset. Chez Grasset également, alors plusieurs livres de Guillaume Martin Guyonnet, Les gens qui rêvent. Il y a La société du peloton dont nous avons parlé tout à l'heure, Philosophie de l'individu dans le groupe. Et puis il y a Socrate à vélo aussi, ça c'est pas mal. Le Tour de France des philosophes dans une nouvelle édition. Merci beaucoup messieurs.
Merci.